Voilà les femmes polonaises qui chantaient cette chanson très étrange. Elle s'appelle Marila Rodovitch, c'est le swing polonais. Nous revenons en Ouzbékistan avec la suite de l'histoire racontée par Madame Mergenbaeva. Nous étions en 1990, aujourd'hui 1995. Quelle différence y a-t-il entre les deux? D'abord, je vous dis tout de suite, l'article écrit par Habiba Fati dans le Géo avril 1995 est une analyse de la situation, enfin, est plutôt une série d'informations sur ce que il se passe en Ouzbékistan avec effectivement aujourd'hui une réislamisation du pays, donc suite des informations qui nous avaient déjà été données par Madame Mergenbaeva en 1990. Cet article ne donne pas du tout une analyse féministe de la situation, mais je pense qu'il peut être intéressant dans la mesure où il nous donne des informations supplémentaires sur ce qui se passe aujourd'hui à propos des femmes dans une région de ce monde. Alors, on le disait, Madame Mergenbaeva le disait, en 1927, les femmes jetaient leur voile au feu. C'est la paradja, ce voile particulier que portent les femmes en Ouzbékistan. Nous allons en rediscuter tout à l'heure, il est mentionné dans l'article. Et en 1990, quand Madame Mergenbaeva nous en parle, elle dit « les femmes sont dévoilées, mais elles ont encore l'âme voilée ». Parce que la situation des femmes en Ouzbékistan est très dure. La preuve, certaines choisissaient à ce moment-là de s'immoler par le feu. Elle nous disait aussi que elle avait l'impression que si dans le pays il y avait effectivement des tendances déjà très fortes au retour de l'islam, avec des manifestations, avec des appels très clairs et nets pour le retour d'un islam le plus dur, il y avait aussi encore à ce moment-là un contrepoint de manifs de gens plus de gauche qui rejetaient cette alternative et qui, entre autres, pour ce qui était des femmes, proposaient une série de rencontres où les témoignages des femmes contribuaient à une prise de conscience qu'il était plus utile, entre guillemets, enfin c'était sûrement pas dit comme ça, de lutter que de s'immoler par le feu. Bien sûr, comment penser que la mort est plus utile que la vie? Et alors qu'en est-il aujourd'hui? Que s'est-il passé depuis ces 5 années que nous avons rencontré Madame Mergenbaeva? Eh bien, dans l'article de Géo 1900 avril 95, il n'y a aucune information sur les femmes qui, elles, commençaient à relutter en 1990, ce que nous a raconté Madame Mergenbaeva. Par contre, il y a de nombreuses informations sur ce qui se passe depuis cette réislamisation de la région de l'Ouzbékistan, devenue entre-temps, donc en 1991, une république indépendante dans l'ex-URSS. Alors pendant près de 70 ans d'occupation soviétique, parce que c'est comme ça que certains habitants de l'Ouzbékistan analysent leur participation à l'Union soviétique, et bien pendant toutes ces années, ce sont les filles ou les épouses des religieux islamiques emprisonnés qui ont clandestinement préservé les traditions de l'islam centra-asiatique. Elles sont aujourd'hui reconnues comme mollahs. Nous allons voir quelle est la fonction du mollah. Propagandiste de la charia, cette loi islamiste, la loi de Dieu. Et ces femmes sont aujourd'hui, semble-t-il, le fer de lance de la réislamisation du pays depuis que l'Ouzbékistan est devenue république indépendante en 1991. Alors, quelles sont leurs tâches? Eh bien, les femmes mollahs, par exemple, prêchent pendant souvent des heures, 4 heures, par exemple, devant un même auditoire composé de femmes. Les discours de prédication se multiplient dans toutes les mosquées, par exemple à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, où les femmes mollahs officient 2 fois par semaine, et en particulier le samedi matin. Elles se succèdent au micro et elles exhortent leur auditoire féminin à suivre le chemin de Dieu et à se couvrir totalement la tête et le corps avec ce fameux voile qui s'appelle le paradja en Ouzbékistan. Ce prosélytisme de ces femmes est fortement encouragé, bien évidemment, par les autorités religieuses locales qui s'emploient à combattre l'athéisme prôné pendant des décennies par les soviétiques et, à défaut d'avoir la foi, eh bien, prônent le respect des devoirs religieux qui sont aujourd'hui considérés en Ouzbékistan comme un signe de la renaissance nationale. On sait bien que c'est un des aspects douloureux de la multiple division et de l'explosion de l'ex-URSS. Ces femmes, Mola, président à tous les temps forts de la vie de la famille. C'est là qu'on les retrouve surtout, en dehors de ces prêches. Elles sont comme des gardiennes de la foi qui interviennent dans tous les événements de la vie de la famille, comme la naissance, la circoncision, le mariage, l'enterrement. Par exemple, eh bien, une femme là peut aider à la préparation de la future mariée. Et après la cérémonie religieuse, qui elle est célébrée par un homme, eh bien, une grande fête réunit habituellement amis et voisins. Et les femmes n'hésitent pas, Mola, à s'y rendre, souvent en délégation, et en empêchant toute consommation d'alcool, mais aussi de danse et de chants profanes. Nous y reviendrons dans la suite des informations. Par ailleurs, elles jugent que ces chants, si elles interviennent comme cela, juste une petite indication, c'est parce qu'elles jugent que ces chants, ces danses et toutes ces libations alcooliques sont absolument pas conformes à la loi de Dieu et que, en tant qu'adeptes intransigeantes de la charia, eh bien, elles se décident à aller en sorte de commando pour rappeler à l'ordre moral les invités de la fête. Par ailleurs, je vous le disais, elles interviennent aussi lors des enterrements. Elles font la lecture du Coran pendant cette cérémonie et elles retrouvent les femmes pendant cette cérémonie dans la partie qui est réservée aux femmes dans les maisons lors des cérémonies religieuses organisées en hommage aux défunts. Et puis, elles contribuent à l'éducation des femmes en donnant des cours de rattrapage pour les femmes ouzbèques. Elles animent des sessions de formation destinées aux femmes considérées comme privées de culture religieuse par l'athéisme d'État soviétique pendant toutes ces années de domination. Ensuite, dernière chose, eh bien, elle fabrique ce fameux voile, le parajja, dont nous parlions tout à l'heure, et il se fabrique en particulier dans les mosquées. Ce sont des jeunes femmes qui confectionnent toutes sortes de tenues islamiques, le voile arabe traditionnel, le tchador iranien, et bien sûr le parajja, ce voile particulier porté en Ouzbékistan. En Asie centrale, la tenue islamique, donc, possède en fait depuis de nombreuses années une valeur plus symbolique que religieuse, mais elle a commencé à refaire partie du paysage urbain à partir de 1990, c'est ce que nous racontait Madame Merimbaeva, sous l'influence de croyantes qui rentraient de pèlerinage à la Mecque. On porte cette tenue surtout dans les grandes villes et dans la vallée de la Fergana. Et si le port du voile est en principe favorablement accueilli, c'est parce que les femmes l'associent à ce qu'elles considèrent comme une ancienne coutume musulmane, le parandja. Et cette tenue, jadis typique de la femme de centre-asiatique, en quoi consiste-t-il? Alors, c'est un vêtement qui enveloppe entièrement le corps de la femme, qui s'accompagne. Donc il y a une tenue noire qui est un voile en crin qui masque le visage, que l'on appelle le tchaftan, et qui est recouvert d'un autre voile de couleur, en général celui-là brodé. Et tout cela forme le parajan. Il est qualifié par les progressistes d'avant ce changement de prison mobile des femmes. Et la parandja, donc, comme nous l'avait dit Mme Merimbaeva, avait été donc interdite en 1927 par les soviétiques lors de leur grande campagne anti-islamiste. Et rappelons-nous-le, donc, comme nous l'avait dit Mme Merimbaeva tout à l'heure, eh bien, les premières femmes qui avaient osé enlever la parandja et le brûler dans la rue ont payé de leur vie ce coup de force et d'imposition de leur indépendance, puisqu'elles, beaucoup d'entre elles furent assassinées par des conservateurs religieux. Mais d'autres, et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui, parvinrent à cacher le parandja en l'enterrant soigneusement dans leur jardin et le ressortent maintenant. Alors c'est le symbole de la campagne d'émancipation de la femme centra-asiatique aujourd'hui et la parandja devient désormais le support d'une identité retrouvée, semble-t-il. Donc, dans certaines mosquées, notamment à Tashkent, les jeunes filles confectionnent les parandjas, les voiles ou les tchadors, et ils seront vendus le jour de la prière, le vendredi.
hátsa felől szomorú. Nem arról hajnalik, amerről hajnalott. Jöttek a zsandárok, mondták, hogy rab vagyok.
Par son statut, la femme musulmane est le plus souvent, on le sait, écartée des décisions religieuses. Rien de très nouveau dans cette explication. Mais en rencontrant des femmes mollahs en Ouzbékistan, eh bien dans les communautés sunnites principalement, puisque l'islam en Ouzbékistan est principalement sunnite, mais il y a quelques communautés chiites, en particulier à Tashkent et à Samarkand et Boukhara, eh bien il semble que non seulement les femmes jouissent d'un immense prestige, à la fois au sein de la population et des autorités religieuses, mais qu'elles disposent en plus de droits et d'obligations particuliers. Si l'islam n'est pas en soi une église, et bien qu'il n'y ait pas de clergé dans l'islam sunnite, diverses catégories de personnages y jouent un rôle religieux, dont les noms ont émergé dans le vocabulaire quotidien de l'actualité politique. On entend souvent parler de l'imam, du mufti, du qadi, des mollahs. Ça, c'est ceux qu'on connaît le plus. Eh bien, les mollahs sont peut-être moins prestigieux, mais plus nombreux, et sont directement liés à la vie de la communauté, car ils se mêlent à la foule des fidèles et exercent sur eux une grande influence. À l'origine, le terme arabe « mollah » désignait la relation qui unissait un individu à une famille ou à une tribu arabe. Par la suite, son usage s'est transformé pour signifier « maître »,« seigneur », et il désigne le plus souvent un dignitaire religieux. Dans le monde musulman russe, soviétique puis post-communiste, il a été utilisé pour représenter un serviteur du culte. Cependant, la majorité de la population musulmane de l'ex-URSS a pu pratiquer sa foi en dehors du contrôle administratif des religions instauré en 1943 par Staline et donc sans avoir recours à un mollah. À la différence des autres religions et en dehors de la prière solennelle du vendredi, l'islam permet en effet à toute personne honnête capable de lire et de comprendre le Coran de diriger une prière et d'officier dans une cérémonie importante comme le mariage ou la circoncision. Si l'islam a survécu dans les États indépendants d'Asie centrale et sud de l'ex-URSS, comme l'Ouzbékistan, eh bien c'est essentiellement en raison de cette particularité et notamment à cause de l'action des femmes érudites qui agissaient dans la clandestinité. En effet, ces filles de bonne famille ont pris la relève de leur père qui avait été emprisonné par les soviets. Gardienne de la foi et des traditions sur lesquelles se fonde la famille, eh bien, la femme mollah joue aujourd'hui un rôle important dans la société centra-asiatique. En Ouzbékistan, sa fonction ne se limite pas à veiller à l'application des diverses prescriptions religieuses. Il lui revient aussi d'assurer la vie religieuse des croyantes. À la fois savante, elle est conseillère et avocate de l'islam et elle s'occupe, comme on le disait tout à l'heure, de la vie quotidienne des musulmanes. Elles remplissent les mêmes fonctions qu'un mollah, ce qui explique pourquoi elles sont appelées femmes mollah. Alors la femme mollah est en principe investie de sa charge par hérédité. Elle est en général issue d'une des grandes familles de mollahs qui étaient célèbres avant la révolution d'octobre 1917. Ces familles constituaient l'élite musulmane de la Russie tsariste et elles furent décimées dans les années 20, soit victimes des purges staliniennes, même si une partie de l'intelligentsia musulmane s'était ralliée au communisme. Le pouvoir soviétique, particulièrement hostile, comme on le sait, à la religion, fixa un programme d'action athéiste destiné à éradiquer cet opium du peuple. La législation soviétique élaborée par Lénine, puis codifiée sous Staline et revisée encore en 1975, interdisait donc toute pratique religieuse, à l'exception du culte toléré dans un nombre restreint d'églises et de mosquées. Cet espace de liberté était aussi placé sous contrôle, puisque dépendant du département des affaires religieuses rattaché au comité central du Parti communiste. Toutes les autres pratiques, comme l'enseignement confessionnel, étaient interdites et se poursuivaient malgré tout dans la clandestinité. Alors, Fatima, une femme mollah aujourd'hui, très influente à Tashkent, en témoigne. L'éducation religieuse que j'ai reçue m'a été donnée en partie par mon père. C'était un mollah originaire de la vallée de la Fergana. Il était très connu en Asie centrale et avait des étudiants dans toutes les grandes villes de la région. il présidait également des prières, même si cela n'était pas autorisé. Mais le KGB le fit arrêter et emprisonner. Je me suis alors tournée vers Lottin. Lottin, c'est une femme qui gère la vie religieuse et l'enseignement religieux aussi. Donc je me suis tournée vers Lottin de notre quartier afin de poursuivre mon éducation. Nous étions quatre et nous nous rendions chez elle le soir en prenant bien soin de cacher nos Corans dans les langes de nos bébés. Actuellement, Fatima intervient dans son propre quartier, près d'un kolkhoz à la périphérie de Tashkent, ainsi que dans d'autres secteurs de la capitale, où elle participe à la célébration d'événements familiaux, nationaux et religieux. Avant chaque cérémonie, les familles font appel à ses services pour une réunion de préparation que l'on appelle Maraka. Responsable de l'éducation des femmes, de la naissance à l'âge adulte, elle est ainsi invitée à réciter une prière à l'occasion d'une naissance, d'une circoncision, d'un mariage, d'un enterrement. À chacune de ces manifestations collectives, le scénario est le même. Amis, proches et voisins sont conviés à un repas gargantuesque où toutes sortes de mets traditionnels sont servis, comme le plov, un plat national ouzbek à base de riz, de viande de mouton, de légumes et d'épices, qui fait office de nourriture rituelle. Ce repas peut réunir parfois des centaines de convives et il est ponctué par les prières de Fatima. Celle-ci lit quelques sourates du Coran en arabe, puis les traduit en ouzbek. Ainsi, en position rituelle sur de somptueux tapis turkmènes, les invités écoutent les passages psalmodiés par Fatima. L'émotion produite par les sonorités du texte de la récitante amène, semble-t-il, souvent l'auditoire au bord des larmes. Comme les femmes présentes sont loin d'être toutes de ferventes musulmanes, ces cérémonies où l'émotion collective est cultivée par le savoir-faire incantatoire de Fatima sont évidemment un terrain de prédication privilégié. Femme de religion, Fatima doit aider les musulmanes à vivre dans une société conforme aux normes coraniques. Pour cela, elle organise des cours de lecture ou de commentaires du Coran et d'enseignement du droit musulman, de la langue arabe et du turc Chagatai, naguère commun à tous les intellectuels d'Asie centrale. Elle dispose de sa propre école religieuse féminine, située à deux pas de chez elle, un établissement divisé en trois niveaux d'études, initiation, stade élémentaire, stade secondaire. 3-4 fois par semaine, elle accueille des centaines d'élèves, de l'âge de 7 ans à 60 ans, on les prend au berceau comme vous voyez, beaucoup parmi les plus âgés assistent à ses cours car elles ont été privées de savoir religieux pendant plus de 70 ans. Les plus jeunes, elles, rêvent de devenir à leur tour femme mollah ou enseignante de l'islam dans une des 25 madrasas de Tashkent, donc ses écoles. La majorité de ces fillettes et adolescentes ont cessé de fréquenter l'école gouvernementale pour se consacrer entièrement à l'islam. Les meilleurs éléments sont dirigés par Fatima, qui, soucieuse de transmettre son héritage, suit la formation de quelques-unes de ces jeunes filles destinées à prendre la relève et dont l'une au moins doit être issue de son quartier pour y maintenir une présence religieuse. En l'occurrence, il s'agit de sa propre fille, Malika, qui épousera un homme du même quartier, conformément à la tradition. L'initiation de la fillette a commencé quand elle avait 4 ans et durera jusqu'à sa 20e année, où elle aura le droit de devenir femme mollah. Cependant, il lui faudra attendre un âge plus avancé pour exercer, en général vers la quarantaine. Jusque-là, en plus de l'éducation de ses enfants et de son métier, elle devra participer en tant que disciple à l'activité de sa femme Mola, pilote. Miért nem virágoztál minden fa tetején, minden fa tetején, diófa levelén, hogy szakisztott En raison des impératifs d'âge, beaucoup de femmes mollahs sont à la retraite. La plupart, forcées à l'école soviétique, ont fait des études supérieures. Certaines avaient même leur carte du parti communiste. Ainsi, Zamira, aujourd'hui 74 ans, de confession chiite, que la journaliste de Géo a rencontrée à Samarcande. Mon mari et moi étions des produits du système, obligés d'être inscrits au parti et de faire semblant. Mais nous gardions au fond du cœur la foi de nos ancêtres. Il était d'autant plus souhaitable pour Zamira d'être au parti qu'elle était historienne, ce qui lui a permis d'apprendre le persan, l'arabe et le turc Chagatai, des langues riches en textes spirituels, mais difficiles d'accès à l'époque soviétique. À partir de 1991, le processus de ré-islamisation né sous la perestroïka et qui a touché les diverses sociétés musulmanes de l'ex-URSS s'est développé d'une manière spectaculaire en Ouzbékistan. Facilité pour se rendre en pèlerinage à la Mecque, construction ou restauration de mosquées, ouverture d'établissements religieux, appel à la prière en langue arabe, naissance d'une coopération islamique, port de la barbe chez les hommes et du hijab chez les femmes, qui furent autant de signes visibles de ce changement. Ces femmes mollahs, qu'on peut un peu considérer comme les passionnariats de la loi islamique, reçoivent en fait pour leur travail une aide active de l'Arabie saoudite. D'une manière générale, les femmes mollahs se montrent décidées à jouer un rôle important dans cette réislamisation avec l'aide matérielle de l'Arabie saoudite et du Pakistan. Encouragées dans cette voie par les membres de la direction spirituelle des musulmans d'Asie centrale, basée à Tashkent, pour qui elles représentent l'avant-garde de la reconquête, comme on dit. On compte sur elles pour donner aux enfants une éducation conforme aux exigences de la loi islamique. Ce sont des musulmanes actives, estime le mufti Haji Mukhtar Abdullah. Nous approuvons leur action, car elles contribuent à diffuser l'islam parmi les musulmanes passives. Temps à autre, on reconnaît un rôle aux femmes dans l'islam. Les discours de prédication se développent d'une manière considérable, en particulier à Tashkent, la capitale, mais le phénomène pourrait vite s'étendre aux autres villes du pays, notamment dans la vallée de Fergana, bastion de la résistance islamiste, armée des Basmachis, jusque dans les années 1930. Donc ces mêmes Basmachis qui avaient assassiné les premières femmes qui ont osé jeter leur parhadja, leur voile, dans le feu en 1927. Ces prêches aujourd'hui ont lieu deux fois par semaine dans les diverses mosquées de la capitale ouzbek et peuvent réunir plus de 500 femmes. Ils sont organisés et dirigés par les femmes mollahs les plus actives qui s'expriment au micro en ouzbek pendant près de 4 heures d'affilée. Leurs voix retentissent dans des haut-parleurs qui sont installés dans les ruelles attenantes aux mosquées. Prière en arabe, prière en ouzbek, lecture des hadiths du prophète traduits du russe et de l'arabe, appel aux musulmanes pour les insister à suivre le chemin de Dieu, conseil sur la nécessité de se couvrir entièrement le corps et la tête, de faire la quintuple prière, de se rendre à la prière solennelle le vendredi et de vivre selon les normes de la charia. Alors, une de leurs actions, nous vous l'avions dit tout à l'heure, c'est d'interrompre, par exemple, les réjouissances des noces, et cela, bien sûr, au grand cri de « Allah Akbar, Allah est grand ». Cette forme d'action est très répandue. Elle est appelée par les femmes mollahs « Dahawa », l'appel. Nous avons connu, explique l'une d'entre elles, nous avons connu un régime communiste et athée. C'est pourquoi la plupart des Ouzbeks ne connaissent même pas leurs devoirs religieux. Il faut donc les éduquer en leur rappelant le message coranique. L'assistante sens est souvent frappée par la connaissance de l'islam qu'ont ces femmes et surtout par leur capacité à lire le livre sacré en arabe, même si elles le lisent d'une façon répétitive et parfois sans même en comprendre le sens, semble-t-il. Cette mission de propagande islamique a pris un sens particulier chez les femmes mollahs qui se manifestent à l'occasion de tout rituel important, naissance, circoncision, funérailles ou mariage. S'attaquant par exemple au mariage civil, elle pousse les jeunes musulmanes à faire un mariage islamique, c'est-à-dire une cérémonie où l'on chante que des textes religieux. Sokistottam, s elisszalasztottam. Toute union ouzbek est d'abord enregistrée normalement à la mairie, puis un mollah est invité chez les parents du marié pour prononcer une sourate qui unit les jeunes époux. La femme mollah n'intervient que le soir, avant la nuit de noces, perturbant ainsi la fête. Venue le plus souvent à l'improviste, en compagnie d'autres femmes mollahs et d'une dizaine d'élèves, en général bien sûr les meilleures récitantes du Coran, elle interrompt les chants des artistes, les danses des invités et, s'emparant du micro, invite l'assistance à prier « Allah est grand ». Elle profite de la situation pour sermonner les femmes non voilés, qui portent le petit fichu ouzbek sur la tête, expliquer qu'il ne faut servir ni alcool, ni viande de porc aux fêtes, ne pas gaspiller la nourriture, ne pas danser, ni jouer de la musique, ni dépenser des milliers de soums, c'est la monnaie ouzbek bien sûr, car, disent-elles, c'est contraire à la charia. Elle dénonce également les rites soviétiques du mariage comme Somol, qui consistait par exemple à déposer une gerbe de fleurs devant la tombe du soldat inconnu. Ça, on peut être d'accord avec elle. Elles s'en prennent aux rites plus ou moins antérieurs à l'islam, mais qui sont complètement intégrés à celui-ci et qui regroupent un certain nombre d'attitudes sociales, comme par exemple la vénération des lieux saints, notamment soufis. Cette démarche, forme de croyance la plus répandue dans toute l'Asie centrale, était souvent considérée comme un événement préliminaire au pèlerinage de la Mecque.
Egyre még szakítanék, ha jóra találnék.
Donc malgré les réticences d'une partie de la population, la réislamisation gagne du terrain, notamment dans la capitale Tashkent et dans la vallée de la Fergana, au lieu de la résistance basmachi contre le bolchevisme dans les années 30. Et dans leur volonté de mener un combat acharné contre les rites laïques et traditionnels hérités du soviétisme et qui, selon les femmes mollahs, ont généré une image féminine calquée sur celle de la société russe, eh bien ces femmes mollahs se considèrent comme les successeurs des propagandistes athées. Elles estiment que leur société est en train de passer d'une agitation athéiste à une agitation islamique et il est fort probable qu'elles parviendront à imposer leurs rites islamiques qui sont supposés supplanter l'ancien mode de vie soviétique. Voilà, c'est terminé aujourd'hui à propos des femmes de l'Ouzbékistan. Je laisse à Habiba Fatih le soin du contenu de son analyse quant au futur de ce qui va se passer en Ouzbékistan. Quant à nous, bien sûr, nous ne pouvons qu'espérer que cela ne se passe pas comme ça et que les femmes qui continuent à essayer de prendre, éveiller la conscience réussissent aussi à maintenir la liberté et l'indépendance des femmes en Ouzbékistan. Kisztott volt.